Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Les principales actualités de ce dimanche 2 mai 2021. Il n'y aura finalement pas de reconfinement à Perth, c'est ce qu'a annoncé il y a quelques minutes le premier d'Australie-Occidentale, Mark McGowan. Il a en revanche également précisé que quelques restrictions allaient malgré tout être mises en place. Toujours en Australie, l'indignation de la communauté indienne, mais aussi de plusieurs organismes de défense des droits de l'homme, après que le gouvernement a décidé la semaine dernière de punir ceux qui tenteraient de gagner l'Australie depuis l'Inde, avec des peines de prison et même des peines d'amende. On ira aussi en France, où plus de 100 000 personnes ont manifesté hier, le 1er mai, à l'occasion de la Fête internationale du travail. Et après le confinement de 3 jours autour du week-end de Anzac Day, il n'y aura pas de nouveau confinement à Perth. C'est ce que vient d'annoncer Mark McGowan, le Premier ministre d'Australie-Occidentale, après qu'aucun nouveau cas de transmission locale n'ait été signalé au cours des 24 dernières heures. Néanmoins, les habitants de Perth et de Peel doivent continuer à porter des masques en public et certaines autres restrictions ont été annoncées, certaines qui ne vont pas faire plaisir aux amateurs de footy.
We have made the decision to not permit spectators attend the derby this afternoon. There will be no crowd at this event at Optus Stadium this afternoon. I understand people will be disappointed, some people will be frustrated, but the decision has been made on health advice and we have tried to communicate this as quickly as possible. The game will still go on and of course people can watch it from their own homes. The decision to have no crowd at the stadium also helps us in preventing possible transmission on public transport.
Plus de peur que de mal donc à Perth après qu'un vigile qui travaille dans un hôtel dédié à la quarantaine des personnes de retour de l'étranger ait été testé positif au coronavirus il y a quelques jours. Par mesure de précaution, la Nouvelle-Zélande a pour sa part décidé de suspendre les vols directs depuis et vers Perth. Prenons maintenant la direction de la Tasmanie. Au lendemain des élections qui ont eu lieu dans cet État, le comptage des bulletins de vote se poursuit, même si le Parti libéral apparaît d'ores et déjà comme le vainqueur de ce scrutin. Pour Rebecca White, la chef de file de l'opposition travailliste, c'est la bonne gestion de la crise du Covid-19 qui a permis au gouvernement sortant de l'emporter.
All around the country, we've seen incumbent governments rewarded for their management of COVID-19. And there is no doubt that Peter Gutwin and our public health officials kept our community safe, and tonight's result reflects that.
Et Peter Gutwin, justement, le premier de Tasmanie, remplit donc pour un nouveau mandat et il se félicite d'avoir avec lui une majorité au Parlement.
And whilst we have won this election convincingly, it appears increasingly likely that we will also govern in majority.
Plein pot sur l'aide à l'enfance, c'est l'un des axes du gouvernement fédéral pour le budget qui vient d'être révélé. Ce budget, il prévoit donc une enveloppe de 1,7 milliard de dollars, une enveloppe dont l'objectif principal est d'aider les parents à reprendre une activité professionnelle à temps plein. Parmi les mesures prévues, la couverture jusqu'à 95% contre 85% précédemment des frais de garde d'enfants pour les enfants âgés de moins de 5 ans. Une mesure qui, d'après la ministre Mary Spain, devrait avant tout bénéficier aux femmes. Écoutez-la.
We have seen women's workforce participation moving in the right direction, currently at 61.8%, and the gender pay gap narrowing, but we know that there's more to do, and this announcement today is integral to that. It's about supporting women into the workforce, supporting women in the workforce who want to work more days or more hours. It's about ensuring that families have choice and the support to make those choices in terms of the arrangements that they want to have for their families.
Les pays d'Asie au secours de l'Inde qui se trouve actuellement à l'épicentre de la pandémie de coronavirus. Singapour et plus récemment la Thaïlande viennent tout juste d'acheminer des concentrateurs d'oxygène à New Delhi. New Delhi complètement dépassé par l'ampleur des contaminations et qui manque de tout, notamment de matériel médical. Alors que, comme je vous le disais, actuellement on a plus de 400 000 nouveaux cas de coronavirus par jour en Inde. Et pour se prémunir de cette crise qui frappe donc l'Inde, le gouvernement australien a lui décidé d'interdire aux Australiens se trouvant actuellement en Inde de rentrer en Australie, et ce sous peine d'amende et même de peine de prison, jusqu'à 50 prisons pour qui enfreindrait cette règle. Une mesure particulièrement sévère et sans équivalent dans le monde qui choque notamment les organismes humanitaires mais aussi la communauté indienne en Australie. Pour Supriya Guha, le président de la Société indienne d'Australie occidentale, criminaliser ceux qui tentent de rentrer chez eux, c'est très dangereux.
Look, I mean, it's difficult to comment that, right? I mean, I understand that there is obviously nervousness in the government, in the decision-making bodies and all of that. But really, we are struggling to find what could be a logic for this, because this is completely uncalled for. And this creates a negative sentiment and discrimination message in the community as well.
Et on précise à ce sujet qu'il se trouve actuellement environ 9000 Australiens en Inde. Une nouvelle maintenant qui va peut-être aider ce pays justement à sortir de l'ornière. L'Organisation mondiale de la santé vient d'homologuer le vaccin produit par Moderna après avoir déjà par le passé donné son feu vert à Pfizer, Johnson et AstraZeneca. Alors cette décision, elle ne va pas changer grand-chose pour les pays riches qui utilisent déjà le vaccin Moderna depuis des semaines et pour certains même depuis des mois. En revanche, elle pourrait permettre aux pays pauvres de lancer leur propre campagne de vaccination. À Genève, les explications de Jérémy Lange pour RFI.
L'Union européenne, le Royaume-Uni, Israël, Singapour, dans tous ces pays, on n'a pas attendu le feu vert de l'OMS pour utiliser le vaccin de Moderna. Aux États-Unis, plus de 100 millions d'Américains ont reçu une dose du vaccin. Si l'OMS a mis autant de temps à le valider, c'est surtout parce que Moderna reste une petite structure qui n'avait jamais développé de vaccin auparavant. Margaret Harris est la porte-parole de l'agence.
Il y a des entreprises qui savent très bien quel genre de données nous leur demandons, quel format. Et il y en a d'autres qui sont moins familières avec ce processus. C'est la raison pour laquelle certains vaccins mettent plus de temps que d'autres avant d'être homologués. Bien sûr, les pays peuvent décider d'utiliser des vaccins avant cela, mais c'est l'OMS qui donne les recommandations générales et nous aimerions que les pays les suivent.
La décision de l'OMS ne devrait donc pas changer grand-chose dans les pays riches qui ont massivement commandé du Moderna. C'est différent dans les pays pauvres, puisqu'ils pourraient désormais obtenir des doses de Moderna via le système COVAX de partage de vaccins de l'OMS. Il tourne aujourd'hui au ralenti depuis que l'Inde a décidé de suspendre les exportations du vaccin d'AstraZeneca qu'elle produit. Une perte sèche pour COVAX que l'arrivée potentielle de dons de Moderna aura bien du mal à combler. Jérémy Lange, Genève, RFI.
Un mot maintenant sur le Tchad, ce pays africain dont le président Idriss Déby est mort il y a une dizaine de jours, les armes à la main, alors qu'il affrontait des rebelles à son régime. Idriss Déby qui dirigeait le Tchad depuis plus de 30 ans et qui laisse du coup un vide énorme dans ce pays. D'ailleurs, depuis plusieurs jours maintenant, des manifestants un peu partout dans le pays contestent la légitimité du conseil militaire qui a pris le pouvoir à la suite du décès de l'ancien président. On apprend ainsi qu'au moins 4 personnes ont été abattues dans la région de Mandoul dans des affrontements avec les forces de sécurité où, d'après des témoins sur place, la police a tiré sur la foule à balles réelles. En France, je vous le disais dans les titres, entre 100 et 170 000 personnes ont défilé hier dans les rues à l'occasion des traditionnelles manifestations du 1er mai. Ils étaient plus de 20 000 dans les rues de Paris et leurs revendications sont plus que jamais d'actualité. C'est ce qu'a constaté Anne Verdaguet. On écoute son reportage pour RFI.
On est là ! Même si Macron ne veut pas nous ! un déconfinement des luttes, c'était le mot d'ordre pour ce 1er mai à Paris. Et la colère face à une situation sociale aggravée depuis un an était présente chez les manifestants, venus en nombre malgré le froid et la pluie. Pour Simon Dutheil, co-délégué général de l'Union syndicale solidaire, il y a urgence aujourd'hui à se rassembler.
Pour nous, c'est un moment très très important. On a vu à quel point les conditions pouvaient être aggravées dans le travail. Les gens qui font un travail très très utile sont pour autant très peu protégés avec des salaires de misère et des conditions de travail très 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 dures. Et le gouvernement n'a pas pris la mesure de ces choses-là.
Dans le cortège, de nombreux jeunes, mais aussi des intermittents, les personnels hospitaliers qui sont plus que jamais mobilisés. Pour Pierre Compin du syndicat FO 92, ce grand retour des manifestations n'en est pas vraiment un.
En réalité, depuis un an, on est toujours là. Sauf que je pense que on est arrivé à un état de ras-le-bol dans la population qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de voix qui montent. Donc faut arrêter de nous raconter des salades sur la politique sanitaire. En réalité, ils ferment des lits, ils ferment des hôpitaux et ça, on peut pas accepter.
À un an de la présidentielle, les syndicats comptent bien faire pression sur le gouvernement qui, s'il l'avait oublié, devra composer avec ce ras-le-bol d'une partie de la population.
Et la France toujours, où cette semaine, le président Emmanuel Macron a présenté sa feuille de route pour une levée progressive des restrictions en place depuis maintenant des mois. Il a également annoncé que la vaccination contre le coronavirus était désormais accessible aux personnes souffrant de maladies chroniques, comme par exemple l'obésité ou encore l'hypertension. 4 millions de personnes sont ainsi concernées. Elles sont également, pour la plupart, soulagées. Les précisions de Cédric de Oliveira pour RFI.
Frédéric trépignait d'impatience depuis de longs mois. En surpoids, il attendait désespérément que le gouvernement élargisse les critères concernant la vaccination. Désormais, il se réjouit d'avoir enfin un rendez-vous.
Je suis soulagé. Moi, j'attendais que ça. Je tapais des pieds. Mais dès que j'ai vu que je rentrais dans une catégorie qui, à partir du 1er mai, était appelée à se faire vacciner, j'ai un peu fait des pieds et des mains. Moi, j'ai un peu cette chance. Donc, j'estime que j'avais pas le droit de la laisser passer et que j'étais impatient et j'avais le doigt sur la gâchette pour m'inscrire le plus vite possible.
Son vœu sera donc exaucé ce jeudi. Mais pour certains, la démarche a encore été plus rapide. Après l'annonce d'Olivier Véran, Simon n'a pas traîné pour s'organiser et il a déjà reçu sa première dose du vaccin Pfizer.
J'ai regardé sur Doctolib les rendez-vous qui étaient disponibles. Et du coup, en fait, de la veille pour le lendemain, j'ai vu qu'il y avait un rendez-vous. On ne m'a pas demandé de justificatif. Comme moi, ma comorbidité, c'est l'obésité, c'est visible. Au moins, c'est fait. Ça met une date à la fin du calvaire, entre guillemets, même si peut-être j'ai un peu plus de sérénité grâce à ça, on va dire.
Il lui faudra patienter plusieurs semaines pour recevoir la deuxième dose. D'ici là, le gouvernement aura ouvert la vaccination aux plus de 50 ans à partir du 15 mai. Tous les adultes seront éligibles à compter du 15 juin.
Et pour finir, on jette un œil à la météo de ce dimanche en Australie. Du soleil et 23 degrés à Perth, 21 degrés à Adélaïde où il fait beau également, 25 degrés à Melbourne, on attend des averses plus tard dans la journée, 21 degrés à Hobart, 24 degrés à Sydney où il y a un peu de fumée dans l'air ambiant, 25 degrés à Brisbane, 28 degrés à Cairns et jusqu'à 34 degrés ce dimanche à Darwin.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.